Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission consacrée à l'art-thérapie, la cinquième du série. La cinquième, car ce sujet, comme vous avez pu l'entendre, est complexe, riche de tous ces travaux, recherches, expérimentations de psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, artistes, et tous ont participé à faire en sorte que cette pratique voit le jour pour donner des résultats encourageants. Et ce n'est pas fini. Aussi, 5 émissions ne sont pas de trop pour cela. Alors, je vous invite bien évidemment à écouter les émissions précédentes sur Internet, sur le site de RLP, Radio Libre en Périgord, au pluriel, à partir de la numéro 25 de La Voix des Arts par Christine Darboux. Cela vous permettra de vous mettre dans le bain et répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur qu'est-ce que l'art lié à la thérapie, comment l'art-thérapie est-elle née, ou grâce à qui, pour qui. Bref, toutes les questions essentielles qui demandent réponse lorsqu'un sujet se présente et qu'il est susceptible d'intéresser. Alors les réponses, j'essaye de vous les donner au fur et à mesure, en investiguant le temps, l'espace et en vous présentant le travail, les recherches et applications des médecins, psychiatres, psychothérapeutes, notamment psychanalystes, art-thérapeutes et ainsi que les artistes. Et nous allons d'ailleurs continuer aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés maintenant au XXe siècle, dans les années 70, en laissant néanmoins derrière nous quelques décennies bien remplies. Alors à partir des années 70, les champs d'application s'étendent encore, s'adaptent aux nouvelles pathologies, s'accordent aux mouvements de la société pour s'attaquer aux nœuds de problèmes générés par ces transformations sociétales, par toujours favorables à la personne, à la famille ou au groupe d'appartenance. Et sans trop rentrer dans les détails, je citerai quelques noms de médecins psychiatres, psychothérapeutes qui ont fait avancer l'art-thérapie parce qu'ils se sont intéressés surtout cette fois-ci au groupe et à son fonctionnement. Et c'est donc le groupe, celui constitué par la famille, les affinités, par le travail, par l'appartenance socioculturelle, donc la société, voire la nation. Aussi, quelles thérapies seront-elles appropriées si nécessaires? Et c'est à ces questions qu'essaieront de répondre des médecins. Et suite aux observations et réflexions, des réponses seront apportées jusqu'à ce que l'art-thérapie trouve le moyen de s'insérer pour optimiser la pratique thérapeutique. Alors, je citerai rapidement parmi ces médecins Didier Anzieux, qui, entre autres grands travaux et recherches sur l'individu et sa relation au monde, a effectué des recherches sur le groupe en tant que médiation, et il a expérimenté des techniques comme le psychodrame, qui renvoie également au travail du psychiatre, sociologue et philosophe Jacob Lévy-Moreno. Alors ce dernier, même s'il s'est intéressé aux thérapies freudiennes, trouvait plus efficace pour traiter ses patients de les mettre en situation en groupe dans un environnement social donné plutôt que de faire appel à la seule utilisation des mots et du langage sous le regard unique du thérapeute. Alors qu'est-ce que le psychodrame ? Le psychodrame met en scène, comme dans une représentation théâtrale, un groupe de personnes qui sera néanmoins dirigé par un thérapeute. Et chacun, au sein de ce groupe, par interaction avec les autres, sous forme de scénario improvisé, va réactualiser sur scène sa problématique ou la source de son conflit avec autrui, par exemple. Alors, je lis de Didier Anzieux. Le groupe exerce des effets psychothérapeutiques sur les personnes qui le composent. Il peut rétablir la situation fantasmatique introsubjective et avec elle les dispositions au jeu, à la créativité, à la symbolisation. Il peut défaire les identifications imaginaires et reconstruire de nouvelles identifications narcissiques et symboliques. Il permet, mieux que la psychothérapie individuelle, de retrouver et perlaborer les traumatismes précoces. Bon, je reconnais que le vocabulaire est celui spécifique des médecins psychiatres, que nous apprenons à décoder au fur et à mesure que nous rentrons dans les méandres de leurs pensées. Bon, encore faut-il être sûr, en lisant leurs écrits, de bien traduire leurs pensées. Alors, perlarborer est un mot qui correspond au langage psychiatrique, psychanalytique, et qui a été inventé dans les années 60 pour traduire un mot allemand, et il signifie à la fois élaborer et travailler avec soin. Alors Wikipédia dit « c'est une élaboration fondant le travail psychanalytique et visant la suppression du symptôme névrotique ». Bon, sans détailler le sens des mots de chaque phrase citée par Didier Anzieux, participant à une forme de langage particulier au monde médical, bon, je pense que vous avez compris le sens général. Bon, tout ceci pour vous dire que le groupe et sa dynamique sont susceptibles d'optimiser une thérapie pour laquelle d'ailleurs une pratique artistique comme le théâtre, par exemple, sera utilisée efficacement. Et Didier Anzieux trouve que la psychothérapie de groupe serait plus efficace que la psychothérapie individuelle dans certains cas. Alors dans la suite de Didier Anzieux, d'autres psychiatres du XXe siècle apportent le fruit de leurs études sur le groupe. Alors, prenons l'exemple du psychiatre René Kess, qui aborde les alliances inconscientes lorsqu'il entreprend ses recherches, notamment sur la construction de ce qu'il nomme l'appareil psychique groupal. Bon, je vous laisse le temps d'assimiler. Dans ses émissions, il était souvent question du psychisme d'un individu. Bon, ici, nous parlons du groupe, dans le sens où le groupe fonctionne comme une entité. Alors, c'est également les psychiatres anglais Foulkes, Bion et l'argentin Henrik Pichon-Rivière, entre autres, qui vont décortiquer tous les fonctionnements des groupes humains en cherchant le pourquoi du comment et parvenir à dégager des outils pour traiter les problématiques. Ce qui fait que l'art thérapie trouvera elle aussi moyen à terme de s'insérer et vous en avez l'exemple avec le psychodrame. Alors, ce pourra être l'occasion de la mise en place d'ateliers divers où le théâtre et l'écriture, par exemple, trouveront leur place. Bon, n'arrêtons pas le progrès de nos psys en si bon chemin. Et puisqu'ils ont le vent en poupe, ben, je me permets encore d'attirer votre attention sur d'autres recherches, d'autant plus que la terre et le modelage sauront être les médiums de prédilection, ce qui me touche particulièrement en tant que sculpteur-modeleur. Alors, c'est une psychanalyste anglaise, Marion Milner, qui, fin des années 70, introduit le concept de médium malléable, repris et développé par un autre psychanalyste français, René Roussillon. Alors, globalement, le médium malléable interviendrait dans le processus de structuration du psychisme. Et c'est par la confrontation à un médium, un intermédiaire, qui possède des caractéristiques spécifiques que ce processus de structuration se réaliserait. Alors Marion Milner dit à ce sujet, c'est une substance intermédiaire au travers de laquelle les impressions sont transportées au sens. Alors cette psychanalyste, disciple de Mélanie Klein, s'est également basée sur les travaux de Winnicott, cités plus avant, et ses théories concernant les liens et rapports du tout petit enfant avec son environnement. Alors en effet, l'enfant, pour se construire et construire ses relations avec l'extérieur, doit pouvoir se confronter à un environnement propice qui lui apporte de l'extérieur ce dont il a besoin. Alors, si ce n'est possible, si l'enfant ne trouve pas ce dont il a besoin, eh bien, on peut craindre des troubles du développement, cause de souffrances psychiques, voire apparition de pathologies futures, c'est-à-dire des problèmes liés au développement et à l'expression de la personnalité, pour parler clairement. Alors, le psychanalyste René Roussillon a comparé l'environnement propice du tout petit à la pâte à modeler qui rassemble les qualités que je vais citer et qui sont principalement au nombre de 5. Alors, grosso modo, je vais essayer d'en résumer les caractéristiques. Alors, l'une, c'est la disponibilité inconditionnelle, c'est-à-dire que c'est cet état de présence quasi permanente sur lequel l'enfant peut compter. Une autre parle de prévisibilité qui permet à l'enfant de trouver des repères sans exclure une certaine plasticité apte à proposer des situations nouvelles que l'enfant, en gardant sa stabilité, va intégrer au fur et à mesure. Bon, le médium malléable sera hypersensible car il donne la possibilité à l'enfant d'y imprimer ce qu'il aimait ou veut transmettre. De même, il possède une infinie transformation et en effet, l'environnement sera adaptable aux multiples actions, sollicitations du sujet, capable de prendre toutes les formes en réponse. Et il sera également indestructible, c'est-à-dire capable d'encaisser ce qui vient sans en être affecté et rester le même face aux agressions possibles. Alors voilà globalement les qualités du médium malléable, cet intermédiaire qui sera, selon le cas, sujet ou matériau. Par exemple, c'est privilégièrement la mère au premier balbutiement pour favoriser le développement normal de l'enfant. Et en ce qui concerne des personnalités, notamment adultes, morcelées ou déstructurées, eh bien, c'est le médecin, le thérapeute. Alors, en art-thérapie, la terre, l'argile à modeler, pourra constituer ce médium intermédiaire adapté pour répondre à certaines pathologies. Et il permettra, entre autres possibilités, grâce à des manipulations touchant à un archaïsme primaire, peut-être, aussi d'expurger, de matérialiser et d'évacuer la problématique d'un sujet. Et ce sera au médecin, le professionnel de santé ou un art-thérapeute confirmé, qu'il appartiendra d'en juger face au patient pour l'accompagner à bon escient. Enfin, quoi qu'il en soit, et en résumé de ces 5 volets consacrés à l'art-thérapie, c'est-à-dire les numéros 25, 26, 27, 28 et maintenant 29 de la Voie des Arts, nous pouvons dire que cette discipline a acquis ses lettres de noblesse grâce aux recherches et expériences du monde médical liées à la sensibilité et expressivité d'artistes investis, l'ensemble étalé sur quelques dizaines d'années. Et ce n'est pas terminé, car nous pouvons constater qu'elle apporte de plus en plus sa part de bénéfices dans le traitement de pathologies ou même la résolution de problématiques mentales, psychiques, et qu'elle sait prouver ses capacités à initier des processus de guérison possibles. Alors, de nos jours, l'art-thérapie est sollicitée pour simplement apporter ou améliorer son bien-être à tout niveau, gérer son stress, prendre confiance en soi, rétablir l'estime de soi, faciliter les relations avec autrui, car elle est utilisée globalement dans un contexte de développement personnel. Alors, que ce soit par le théâtre, le psychodrame, avec les clowns, les marionnettes, afin, par exemple, qu'un sujet puisse s'identifier, impliquer son corps, expérimenter la dimension cathartique pour exprimer, expurger, comme ce sera également le cas avec l'écriture, ou avec l'expression corporelle, par la danse, le mouvement et le rythme au travers de la musique, afin de structurer la gestuelle, par exemple, ou bien le collage, qui l'aidera à s'approprier le monde, le transformer, le dessin pour communiquer, échanger, les couleurs au travers de la peinture, reflet de l'âme entre autres, le modelage avec les trois dimensions pour améliorer sa relation à l'espace, renforcer et structurer son intériorité. Bref, c'est tant de disciplines ou médiums dont la liste n'est pas exhaustive, possédant des propriétés qui leur sont propres, aptes à déclencher des réactions, actions chez un sujet, et c'est autant d'étincelles de vie possibles pour raviver des énergies et relancer des processus intérieurs. Alors je suis d'avis un peu comme Joseph Beuys, l'artiste d'origine allemande faisant partie du mouvement Fluxus dans les années 60, et j'en ai parlé dans les émissions précédentes. Je suis donc d'avis que la créativité est une faculté, une disposition largement partagée par toute l'humanité, même si elle reste parfois à l'état latent ou d'embryon. Bon, elle se déploie dans tous les secteurs de l'existence, hein, pas uniquement dans l'artistique. L'artistique apporte peut-être plus facilement ce côté ludique, plus accessible à tous, et donc elle est apte à relancer une dynamique. Aussi, quel que soit l'âge de la vie, mais la problématique à traiter, eh bien, nous pouvons tous nous tourner un jour ou l'autre vers l'art afin de solliciter notre créativité pour y chercher un bénéfice. Alors, au rythme de ces émissions, je vous ai fait parcourir le temps comme l'espace à la rencontre de ceux, notamment les médecins, dont la vocation est de soigner et guérir, c'est-à-dire à la base rétablir un équilibre entre toutes les fonctions. Alors faisons confiance au temps et au travail de ceux qui ont construit l'art-thérapie grâce à leur pragmatisme, des résultats concrets qui valident la pratique de l'art-thérapeute existent, et ce sont eux surtout qui font que je me suis quelque peu décarcassée pour vous présenter ce sujet et tenter de l'expliquer. Alors il faut savoir que la profession d'art-thérapeute ne s'improvise pas, même si certaines personnes disposent de qualités personnelles, d'empathie, de réceptivité, avec un sens inné pour accompagner autrui vers un mieux-être, notamment avec un médium particulier. Les études à la fois théoriques et pratiques sont longues. 2 ans minimum pour un médiateur artistique, on va dire que c'est le premier niveau de l'art-thérapie, où il convient de s'initier à toutes les connaissances générales en cours, tester ses aptitudes par des pratiques en atelier ou avec des stages dans des structures, et plusieurs années sont nécessaires pour former un art-thérapeute, car celui-ci construit sa pratique au cours du temps. Alors également, comme toutes les professions liées au médical, c'est-à-dire aux soins à l'autre et aux sciences humaines en relation avec la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, il fait l'objet de supervision avec un médecin psychiatre ou un art-thérapeute qualifié. Bon, ces supervisions sont recommandées car c'est ce qui permet à un art-thérapeute de faire le point, de souligner certains problèmes pour en dénouer les nœuds, si possible, le but étant d'optimiser la pratique en faisant en sorte que l'art-thérapeute garde son équilibre et que l'accompagnement se poursuive dans l'intérêt du patient. Alors l'art-thérapeute peut exercer en indépendant, en ouvrant son cabinet, il intervient dans tout secteur, notamment auprès de particuliers. Il peut travailler en association ou bien il s'implante dans une équipe médicale pluridisciplinaire en institution médicalisée. Bon, son champ d'action est vaste, hein. En général, il intervient auprès de toute personne fragilisée, malade ou en difficulté personnelle ou sociale ou simplement en demande de mieux-être. Aussi, son public sera-t-il divers ? Il interviendra auprès de particuliers, au sein de groupes, auprès d'enfants, d'adultes, de personnes âgées, d'handicapés mentaux, physiques, etc. Alors, en ce qui concerne la formation des art-thérapeutes, ceux-ci ont commencé à voir le jour à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, au Canada, notamment dans ce dernier pays avec proposition d'un programme de maîtrise. et en France dès les années 70. Et ces premières écoles d'art thérapie ont ouvert leurs portes grâce à des art thérapeutes, psychiatres, psychanalystes, psychologues principalement. Alors l'une des premières créées en 1976 est nommée la FRATAPEM, Association française de recherche et application des techniques artistiques en pédagogie et médecine. Elle est dirigée par un art thérapeute, également professeur de musique, nommé Richard Forestier, et qui travaille en collaboration avec les facultés de médecine de Tours, Lille et Grenoble. Alors l'INECAT, l'Institut national d'expression, de création d'art et transformation, fondé en 1981 par le psychiatre Jean-Pierre Klein, forme à Paris des médiateurs artistiques, bon, ce qui correspond à un premier niveau, on va dire, en art-thérapie, ainsi que des art-thérapeutes. Et en tant qu'élève, et donc en raison de ma proximité avec l'INECAT, qui m'a familiarisée et initiée à l'art-thérapie, eh bien, vous avez pu constater que je me suis appuyée sur les commentaires tirés des expériences de Jean-Pierre Klein pour vous faire comprendre ce qu'est l'art-thérapie. Alors, un autre organisme de formation d'art-thérapeute, lui, situé à Arles, est le PROFAC, l'Institut de recherche et de formation en art-thérapie. Il fut fondé en 2003 par le docteur en psychologie et pathologie clinique, Jean-Pierre Royol. Alors, toutes ces formations correspondent à des niveaux 3 pour la médiation artistique, c'est-à-dire Bac plus 2, et niveau 2 pour l'art-thérapie, c'est-à-dire Bac plus 4. Chacun débouchant sur un certificat validé par l'État et répertorié au registre national des certifications professionnelles, même si la profession ne bénéficie pas de reconnaissance officielle en France, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, puisque le Health Service britannique reconnaît la profession, et c'est pareil, idem en Roumanie. Alors, des universités comme celle de Paris 5 délivrent un diplôme universitaire d'art-thérapeute et donc uniquement reconnu par l'université. Et seul le master de l'université Paris-Cité-Sorbonne est un diplôme national niveau 1 permettant de poursuivre un doctorat d'art-thérapie. Alors, en 1991, s'est d'ailleurs constitué ECART, qui signifie European Consortium for Art Therapy Education, comprenant 32 institutions membres de 14 pays européens et dont l'Université Paris 5 représente la France. Et ce consortium représente et encourage le développement de l'art-thérapie. Alors, entre autres écoles françaises, je citerai encore l'atelier Les Pinceaux à Paris, l'IRFAT, l'Institut de recherche et formation en art-thérapie d'Avignon, PULS, l'Association régionale d'art-thérapie du Nord Pas-de-Calais. Bon, vous pouvez trouver une liste des organismes de formation sur le site de la Fédération française des art-thérapeutes, la FFAT, Association loi 1901, qui existe depuis 1988, et qui est aujourd'hui un collectif de professionnels. Bon, Internet, comme vous le savez, permet aussi de faire des recherches. Bon, vous constatez que vous avez le choix hein, sur toute la France pour entamer des études en art-thérapie, si le cœur vous en dit, et même en Belgique ou en Suisse ou à l'étranger, si votre connaissance des langues vous permet de comprendre. Bon, des lectures vous permettent de vous initier, de comprendre mieux l'art-thérapie. Bon, j'ai cité celui de Jean-Pierre Klein, j'ai cité son livre édité chez PUF dans les Que sais-je et simplement intitulé L'art-thérapie. Bon, l'INECAT fournit également des revues. Jean-Pierre Forestier a également publié chez Favre un livre intitulé Tout savoir sur l'art-thérapie. Une revue nommée Art et thérapie que vous pouvez vous procurer dans ces associations, écoles et rédigée par des médecins psychiatres, art thérapeutes entre autres, vous tiennent au courant des dernières recherches ou des thèmes plus spécifiques y sont abordés également. susceptibles d'étayer une pratique ou d'apporter des pistes supplémentaires pour approfondir son sujet. Bon, j'ai bien évidemment eu l'occasion de m'y intéresser, d'en lire avec profit. Alors, si le sujet vous intéresse, eh bien, il suffit de chercher, savoir faire le tri également, car de plus en plus de livres, revues, articles abordent maintenant l'art thérapie, avec le risque aussi de s'y perdre ou d'y trouver peut-être de tout et n'importe quoi, mais comme dans tous les secteurs, d'ailleurs, quand ceci commence à intéresser un public de plus en plus large. Mais vous devriez trouver votre compte et j'espère avoir contribué à vous éclairer, à moins qu'en cours de route, je ne vous ai noyé et donc perdu, c'est le risque. Je vais me consoler en regardant le côté positif, car il y en a toujours un, et heureusement, et aussi tout en admettant que vous ayez bu le bouillon, eh bien on peut supposer que vous avez su vous accrocher pour retrouver votre souffle, ce qui nous accorde le mérite partagé de vous avoir mis dans le bain, c'est déjà ça. Bien, l'émission arrive à sa fin. En même temps que s'achève le thème qui a nécessité de par son importance en tout 5 émissions de la numéro 25 à 29. Sur ce, bonne digestion et rendez-vous pour de nouvelles découvertes. C'était Christine Darboux à La Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.